Des concerts à volo, de la danse à gogo, Radio Esperanza.
Débat sur Radio Esperanza. Débat.
Bonjour à tous et voici donc le dernier débat de Radio Esperanza que vous pouvez écouter sur le 106.2 FM autour de Floref et sur radio.esperanza.be. Bonjour Clarita.
Bonjour Déborah, comment ça va?
Ça va, ces derniers jours on va.
Heureusement qu'on est à la radio et pas à la télé. Hein.
J'ai une sale tête.
Non, je parle pour moi.
Quoi, on...
Je parle pour moi.
Je crois qu'on est tous un peu fatigués là, mais ça va. Hein,
Mais on dormira quand on sera vieux, puis voilà.
Ah ouais, non, tantôt quand même. Petite sieste de temps en temps. Bon, mais là, on va pas parler de sieste du tout. On est donc toujours dans les débats autour du droit à l'alimentation. Aujourd'hui, eh bien, on va parler de l'accaparement des terres avec nos invités. Donc Arnaud Zachary du CNCD 1111, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire général, non?
Oui.
Oui, c'est ça.
Toujours. Toujours, ouais.
Et François de Terre en Vue.
Bonjour.
Alors, Terre en Vue, c'est quoi? Parce que c'est une CD, enfin,
depuis
vendredi, je crois qu'on en parle beaucoup. On va quand même redire ce que c'est.
Nous, on est une initiative citoyenne et associative relativement récente. On a créé une ASBL il y a 2 ans et une coopérative il y a 1 an et demi pour travailler sur l'accaparement des terres et la préservation de l'agriculture à taille humaine en Belgique.
Ah, c'est en Belgique?
En Belgique francophone. Les Flamands sont occupés à créer leur propre système, leur propre coopérative et leur propre ASBL. Nous, on travaille sur la Belgique francophone. Ouais.
Et vous avez aussi, apparemment, d'après ce que j'ai compris, en France, un parallèle.
Un équivalent, oui.
Un équivalent, pardon.
On a pu s'inspirer de Terre de Liens qui existe depuis 10 ans en France, effectivement, qui a pu sauver pas mal de terres et pas mal de fermes. En France, qui a la même structure. On s'est inspiré de leur structure, on a regardé ce qui était le plus pertinent pour la Belgique. Et finalement, on se retrouve aussi avec une structure avec 3 instances, une ASBL, une coopérative, et on va créer une fondation pour recevoir les legs de terre et les dons en argent. Oui.
Coopérative, alors c'est quoi? Enfin...
Alors le principe de la coopérative, c'est qu'on a des citoyens qui veulent placer leur argent, leur épargne dans des projets qui ont du sens. Ici, on est une coopérative à finalité sociale. Et avec cet argent, nous, on va acheter des terres pour installer des agriculteurs en agriculture à taille humaine. Donc on ne demande pas le bio certifié, mais on est dans l'agriculture sans pesticides, sans insecticides, avec la vente en circuit court, vente à la ferme. Et c'est de recréer du lien local, en fait. Cette coopérative est vraiment un outil qui nous permet de reconnecter les consommateurs, les clients de la ferme avec le producteur. Le producteur sait à qui il vend ses produits, qui va les manger. Et les gens qui consomment savent qui les produit. Ça recrée du lien et c'est assez positif. Oui.
C'est de l'agroécologie, dis
c'est
donc.
C'est de l'agroécologie.
À propos justement d'agroécologie, donc c'était la thématique d'hier. Et on vous parlait justement des OGM. On a parlé tous les 3 jours en fait des OGM. On s'est un peu énervé d'ailleurs là-dessus.
Oui, et on va y revenir.
On va y revenir sûrement. On va encore s'énerver. Et on va peut-être passer. Il y a Ludo qui a justement réalisé un reportage sur les faucheurs d'OGM.
Le jardin des autochtones.
Les chemins de traverse du festival.
Voilà, on est ici au début de la montée vers Esperanza. On est vendredi, début de soirée. Je suis avec une criminelle. Oui, Marie est avec nous. Elle va nous expliquer un petit peu pourquoi, en quoi est-ce qu'elle est une criminelle.
Ben, je suis une criminelle pour avoir participé à l'arrachage de pommes de terre OGM à Wetteren, près de Gand. Donc on nous a condamnés dans un premier tour à 6 mois de prison ferme pour ma part. On est 11 inculpés, mais il faut savoir qu'il y avait 400 personnes ce jour-là pour l'arrachage et qu'on ne va pas en rester là.
D'accord, et le jugement n'est pas encore tombé, hein, tu me disais, hors antenne.
Oui, c'est un processus un petit peu à rallonge puisqu'on a d'abord été jugé en notre absence, qu'on avait quitté le tribunal parce que la juge n'avait pas voulu entendre nos témoins. Donc maintenant, on a été rappelé en opposition, nos avocats ont plaidé et on attend la sentence définitive.
Qui ne sera pas définitive forcément parce que vous allez faire appel.
Oui, si elle ne nous convient pas, donc si on maintient les mois de prison et l'amende de 25 000 euros, bien sûr, on fera appel puisque nous, ce qu'on veut, c'est l'acquittement puisqu'on a agi pour le bien commun. et l'acquittement financier aussi.
Voilà, c'est de la désobéissance civile, on peut dire.
Exactement, oui, c'est de la désobéissance civile pour le bien commun.
Oui, d'accord. Et tu es condamné à combien de temps, donc ?
6 mois de prison ferme.
Oui. C'est quand même assez terrible. En plus, toi, tu n'as pas arraché d'OGM.
Non, moi, je n'ai pas arraché. Donc, j'ai secoué des barrières, j'ai provoqué des dommages. Donc, je suis condamné pour ça.
Tu as réellement provoqué des dommages ou tu n'as fait que secouer des barrières ?
J'ai secoué une barrière. Je ne sais pas comment elle est ressortie, mais ça, c'est un fait que je ne nie pas. Mais c'était... Ce n'est pas considéré comme de la violence de secouer une barrière quand on sait la violence que ça nous impose les OGM en plein champ, sans aucune protection et dans notre assiette via l'importation également. Donc on fait ce qu'on peut pour maintenir la porte fermée pour les OGM et s'il faut passer par le cassage d'une barrière, personne n'a frappé de policier, ça c'est certain. Donc nous considérons non-violents.
Ce n'est pas de la violence, une barrière, je comprends, je conçois bien. Et c'est la première fois que vous disiez ça en fait, ou vous avez déjà commis d'autres actions du genre ?
Non, c'est vraiment la première fois.
Et directement, vous vous êtes fait inculper.
Oui, il y a 11 personnes qui ont été retenues suite à l'enquête de la police, donc sur les 400 qui étaient présentes ce jour-là. Et donc, suite à ça, il y a aussi environ 90 personnes qui sont portées comparant volontaires, qui ont dit à la justice, nous aussi, on veut être accusés de cela, on veut rejoindre le procès, ce que la juge n'a pas accepté. Mais c'est pour montrer que le mouvement, ce n'est pas 11 personnes, c'est la majorité de la population.
Mais pourquoi 11 ? Sur quelle base, en tout cas, ils ont inculpé ces 11 personnes et pas les autres ?
Mais ils avaient arrêté administrativement 30 personnes, puis on a été entendu par la police judiciaire, et sur base des preuves qu'ils avaient, alors ça, je ne sais pas comment ils ont déterminé, les photos, des choses comme ça, ils ont retenu 11 personnes. Et ils disent maintenant qu'on est une bande de malfaiteurs, mais en réalité, il n'y a rien qui lie ces 11 personnes. Ou sinon, il faudrait prendre les 400.
D'accord, oui. Ben oui, c'est logique. Vous allez continuer ce genre d'action ?
Moi, personnellement, je ne pense pas parce que ça prend beaucoup de temps personnel de suivre le processus, d'aller à des réunions et autres, des stands d'information. Donc ça, voilà, ça implique beaucoup, d'autant plus que je travaille pour l'administration, donc d'avoir un casier judiciaire, ça implique aussi certaines choses. Mais je soutiens de tout cœur que cette lutte continue et qu'il y a déjà des effets positifs puisque BASF et Monsanto sont en train de se retirer d'Europe, notamment
D'accord.
grâce à ça.
D'accord, oui, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose d'en être là où vous en êtes parce qu'au moins, on en parlait tout à l'heure avant de prendre le micro, ça met la situation en évidence.
Oui, mais les grandes entreprises ont des années de travail foutues à cause de ces arrachages. Donc concrètement, moi je pense que c'est ça qui permet qu'on n'ait pas d'OGM en culture ou plus ou moins pas, très peu en tout cas en Europe. Mais bon, il faut savoir que toute l'importation, c'est de l'OGM quand même. Hein, donc c'est un peu hypocrite, mais au moins on fait ce qu'on peut sur notre terrain.
Voilà, je vais le dire un petit peu pour tous nos auditeurs qui ne savent peut-être pas exactement de quoi on parle. OGM, organisme génétiquement modifié. Tu peux peut-être donner un avis là-dessus, puisque apparemment tu connais bien le contexte, tu es ingénieur agronome. Hein.
Oui, c'est ça. Donc les OGM sont utilisés dans pas mal de domaines, hein, et moi j'ai aucun problème avec tout ce qui se fait en laboratoire. Par exemple, les OGM médicaux, il y en a assez bien. Il n'y a pas de souci, c'est contrôlé, pour autant que le laboratoire fonctionne bien. Mais quand on met un OGM en plein champ, on ne sait pas ce qui va advenir de l'environnement, d'une part, et d'autre part, ce sont des grosses multinationales qui contrôlent ça. On a des mauvaises herbes qui deviennent résistantes, des insectes qui deviennent résistants. Donc c'est un peu comme les antibiotiques, c'est pas du tout une solution et ça cause plus de problèmes. Et pour les agriculteurs aussi, ils se retrouvent dans un piège où ils sont obligés d'acheter leurs semences, sont complètement dépendants, comme on le voit en Inde où il y a des tas de suicides d'agriculteurs suite au coton résistant BT. C'est tout sauf durable.
D'accord, et en plus, mais tant que c'est contrôlé, ça va, mais un jour ça peut s'échapper des champs, bien sûr, ces OGM, ces créations, c'est déjà le cas.
C'est déjà le cas. Le long des routes, on voit du colza génétiquement modifié, par exemple, même en Europe où on n'en produit pas. Mais c'est les camions qui transportent ce colza. Bien sûr que ça migre. Il y a eu un procès très important au Canada de Percy Schmeiser là-dessus, qui a été contaminé par des champs de Monsanto. Évidemment, il n'y a pas de barrière pour la nature.
Mais oui.
Quand on voit les sables du Sahara qui arrivent jusqu'ici, le pollen, c'est X fois plus petit qu'un grain de sable. Donc évidemment, ça vole partout. Mais à Wetteren, ils avaient mis une distance de sécurité de 300 mètres. Et avec ça, on estimait qu'il n'y avait pas de prolifération. Maintenant, ce sont des patates, donc ça prolifère peut-être moins, mais c'est quand même toujours ridicule par rapport à comment fonctionne la nature.
Tout à fait, et le danger, c'est que ça se répande effectivement hors contrôle un jour, et qu'on ait des variétés de plantes hyper dominantes, hyper agressives, qui se répandent et qui dominent finalement, qui risquent de prendre le monopole, on va dire.
Et on ne connaît pas du tout encore les effets sur la santé de ces plantes. Parce que tous les tests sont faits sur 3 mois, au lieu d'être faits, comme l'a fait M. Serralini, sur 2 ans, pour voir réellement les mutations. Et il y en a des mutations cancérigènes. Donc on passe sous silence tous les problèmes qu'il pourrait y avoir.
D'accord, Marie, merci beaucoup en tout cas de nous parler de cela et de militer dans ce sens.
Voilà.
Est-ce que tu peux peut-être donner un moyen pour nos auditeurs de s'informer un petit peu plus?
Ben oui, c'est vrai qu'à part tous les endroits où le FLM est présent, comme par exemple dans ce festival ou à d'autres endroits, donc on a un site internet qui est fieldliberation.org, si je ne me trompe pas. Mais bon, voilà, il y a une adresse mail si vous voulez contacter, il y aura une réponse qui sera donnée. On a beaucoup d'activités, on a de la bière en soutien, on a des t-shirts, on a plein de moyens de s'impliquer dans des réunions locales aussi. Voilà, il y a pas mal de monde qui soutient sans pour autant aller arracher les patates.
D'accord. Et oui, rendez-vous peut-être à donner. Vous êtes ici à Esperanza donc, est-ce que vous avez une autre action prévue prochainement?
Disons que la prochaine action, c'est la prochaine audience du procès, ce sera le 24 septembre à Terremonde.
Et là, on invite tout le monde alors à venir.
Oui, tout à fait, en soutien. Donc la dernière fois, il y avait encore 200 personnes avec des débats, avec des petites boutiques de la cuisine, etc. Donc c'est vraiment un moment sympathique qui passe aussi très bien dans la presse pour montrer qu'il y a des gens qui supportent. Et c'est vraiment important de pouvoir nous encadrer pour construire le mouvement, en fait. Oui.
Plus nombreux on sera, mieux ça ira pour vous aussi, quelque part.
Ah oui, bien sûr, oui, c'est très important que la juge voit que c'est pas 11 criminels, mais c'est tout un mouvement qui est derrière, une grande partie de la population, qu'elle change peut-être un petit peu son regard. Voilà.
On le souhaite, on le souhaite vraiment, Marie. FLM, donc Field Liberation, redis les...
Field Liberation Movement. On a dû prendre un nom qui sonnait aussi bien en français qu'en néerlandais, donc on l'a pris en anglais. Voilà, donc c'est le mouvement de libération des champs.
D'accord, ben oui, ben je suis de tout cœur avec vous en tout cas. Merci Marie,
voilà.
On se recroise probablement bientôt sur le festival. Je te souhaite en tout cas que ça aille de l'écho, beaucoup
oui.
D'écho.
Merci beaucoup.
Les radios partenaires de Radio Esperanza. 48 FM à Liège, Radio Campus, Radio Panique et Radio Tam Tam à Bruxelles, Run à Namur, UFM à Mons et Radio Campus à Amiens.
Ouais Marie, on est tous avec toi, Radio Esperanza te supporte, ouais.
Non, il y a un personnage manifestement qui n'aurait pas été déplaisant d'avoir en studio, mais voilà, enfin, finalement quelque part on l'a eu en studio aussi.
Il faudrait qu'en fait ça dure plus longtemps, Radio Esperanza.
Un beau concept ça, le front de libération des terres, très bien, enfin, des champs, des prés, field, c'est prés.
Champs.
Peu importe, on s'est compris.
Voilà. Mais donc, nous, ici, on va... Je ne sais pas si on parlera d'OGM, en tout cas, dans cette émission. C'est peut-être bien que ça va arriver, parce qu'on en parle depuis 2 jours. Mais donc, là, ici, on va parler de l'accaparement des terres. Alors, l'accaparement des terres, c'est quoi, en fait, Arnaud ?
Ben, l'accaparement des terres, bon, le fait d'accaparer des terres, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que depuis une quinzaine d'années, on a de l'achat de terres, ce qu'on appelle l'accaparement des terres, par des firmes privées, des firmes transnationales. Qui sont parfois liés à des États, parfois pas. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène qui s'est déclenché au cours des 15 dernières années pour atteindre une masse critique assez importante, hein? Donc on décompte au total à peu près 200 millions d'hectares de terres accaparées dans les pays du Sud aujourd'hui, donc ça fait à peu près 70 fois la superficie de la Belgique, donc c'est quand même pas rien.
Tu dis dans les pays du Sud, c'est essentiellement dans les pays du Sud?
C'est
alors,
essentiellement dans les pays du Sud, c'est d'abord majoritairement en Afrique. C'est évidemment dans les pays pauvres où on est susceptible de tomber sur un gouvernement qui va accepter de vendre ses terres. Parce que, évidemment, c'est quand même un peu délicat d'un point de vue politique par rapport aux populations locales. Donc, il faut déjà trouver quand même des gouvernements qui aient une poigne suffisamment forte que pour accepter ça. Ça a mal tourné pour certains, puisque à Madagascar, Déhou avait acheté pendant 99 ans des terres pour des superficies très importantes à Madagascar et ça a débouché sur des manifestations très importantes et sur la chute du président de l'époque il y a quelques années. Donc Alors la moitié des terres accaparées servent à cultiver des agrocarburants. Et donc c'est un autre problème, puisque non seulement on accapare des terres qui devraient être utilisées par les paysans locaux pour nourrir leur population, alors comme ce sont des firmes transnationales qui accaparent ces terres, évidemment elles s'arrangent pour trouver des terres où il y a l'accès à l'eau, puisqu'on sait que le gros problème en Afrique c'est l'accès à l'eau. Donc il y a non seulement une compétition pour l'accès aux terres, mais aussi pour l'accès à l'eau au détriment des populations locales. Et en plus, c'est pour moitié de la production d'agrocarburants, donc qui rentre en concurrence avec les cultures vivrières. Donc finalement, le droit à l'alimentation est triplement perdant dans cette affaire. Et si on a eu donc ce phénomène d'accaparement de terres depuis ces dernières années, c'est tout simplement parce que on se rend compte que la sécurité alimentaire est mise à mal dans toute une série de pays qui ont des moyens. Ça existe évidemment en Europe et dans les pays occidentaux, mais aussi au Moyen-Orient, dans des pays émergents d'Asie. Et donc, ces gouvernements ou ces firmes se disent qu'il y a des affaires à faire en achetant des terres pour garantir la sécurité alimentaire d'un pays au cas où il y aurait des problèmes d'accès alimentaire en cas de crise, ou tout simplement pour spéculer ou pour pouvoir produire des agrocarburants et les vendre à des prix de plus en plus élevés, puisque si on dit à des investisseurs financiers à qui on a ouvert la porte au marché des matières premières agricoles, les céréales c'est le pétrole de demain, évidemment ils s'engouffrent sur ces marchés et spéculent à la hausse, et donc ça entraîne une hausse des prix qui se répercute sur tous les prix alimentaires, et donc finalement un quatrième problème pour le droit à l'alimentation, on a des prix trop élevés que pour que notamment les personnes pauvres dans les bidonvilles des mégalopoles du sud puissent avoir accès à cette alimentation qui pourtant existe mais qui est devenue trop chère que pour qu'ils puissent y avoir accès.
Alors tu disais à Madagascar c'était Daou, donc
c'est une firme de Corée du Sud.
C'est ouais. Des voitures,
c'est, ça. C'est des conglomérats, donc vous savez Hyundai, Daou, enfin c'est d'ailleurs toutes nos grandes firmes transnationales aujourd'hui, le General Electric ou General Motors par exemple, quand on regarde les profits de ces firmes, c'est parfois 80% des profits, c'est de la spéculation financière. Donc ils ont une division bancaire, qui une sorte de banque qui ne dit pas son nom puisque c'est lié à une firme transnationale, et qui investit sur les marchés financiers comme font les banques ou les fonds d'investissement, les fonds spéculatifs. Mmh. Et donc les profits engendrés par le secteur privé non financier, notamment aux États-Unis au cours des années 2000, c'était plus des trois quarts pour les grandes firmes, la spéculation financière, d'où la bulle qui a éclaté, d'où la crise dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Donc tout ça est lié évidemment, puisqu'on a financiarisé tout, et notamment les marchés, les matières premières agricoles. Donc, les céréales, le blé, le maïs sont considérés comme des actifs financiers, comme des devises, des taux d'intérêt, des actions, des obligations d'entreprise.
Et donc aussi les cultures pour les agrocarburants.
Exactement. Et donc on a une espèce de cercle pervers. On a l'accaparement des terres qui sert pour moitié à cultiver des agrocarburants, qui exacerbe la spéculation alimentaire et qui pousse les prix vers le haut. Bref, c'est un cercle tout à fait pervers et néfaste au droit à l'alimentation.
À fond.
Alors, en termes d'action pour lutter contre cela, concrètement, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Comment agir ? Je ne sais pas si, François, tu peux intervenir, puisque vous travaillez à échelle locale ici, en Belgique. Comment est-ce qu'on en revient justement à la reprise du droit à la réappropriation des terres ?
Oui, de notre point de vue, évidemment, l'accaparement... Enfin, on travaille surtout sur l'accaparement dans le Nord, et donc on redéfinit, on voit ça sous un autre angle. Finalement, la conséquence de l'accaparement dans le Sud, c'est la pression qui est mise sur les agriculteurs, sur les petits agriculteurs qui disparaissent, qui n'ont plus accès aux terres. Et c'est notre vision aussi dans le Nord, c'est que les statistiques officielles montrent la disparition progressive de l'agriculture familiale en Belgique. Depuis, sur les 20 dernières années, en moyenne, chaque semaine, disparaissent 43 fermes. 43 fermes disparaissent complètement du circuit. Ça ne veut pas dire que les terres ne sont plus exploitées de manière agricole, elles sont simplement rachetées par des plus grosses sociétés ou par des petits agriculteurs que la PAC, la politique agricole commune, a poussé à s'agrandir, qui s'endettent pour le faire et qui au final d'ailleurs se retrouvent eux-mêmes dans les difficultés au moment de la transmission. Les enfants ne savent pas reprendre des fermes aussi énormes. Et ça provoque la disparition progressive du métier d'agriculteur aussi, puisqu'on a 62 chaque semaine aussi, depuis 20 ans, 62 agriculteurs quittent le métier chaque semaine. C'est une moyenne énorme. Sur 20 ans, c'est vraiment énorme. Oui. Et donc, nous, ce qu'on propose, évidemment, c'est de travailler contre cet accaparement dans le Nord et de préserver les fermes, notamment de racheter, quand c'est possible, des terres par notre coopérative pour installer des jeunes agriculteurs et sortir ces terres du marché spéculatif. L'idée, c'est de ne plus jamais les revendre. Donc, d'en faire un bien commun qui est géré par l'agriculteur et par le groupe local de personnes qui a apporté de l'argent dans la coopérative pour acheter la terre. Donc, vraiment, gérer ça au niveau le plus local possible pour que nous ne devenions pas un accapareur non plus avec notre coopérative. Donc nous, on propose des actions vraiment locales, on promeut vis-à-vis de... Enfin, on pousse nos agriculteurs à fonctionner en circuit court, à faire de la vente à direct à la ferme, d'éviter justement de passer par ces marchés mondialisés parce que les prix sont complètement instables, à la hausse et puis à la baisse, et ça presse les agriculteurs, ils n'en tirent jamais rien. Et donc si on peut recréer le lien avec le consommateur, ça permet aussi d'avoir un échange et une relation sociale de producteur à consommateur qui permet de revenir à des prix vrais, des prix justes, qui permettent d'assurer à la fois le salaire de l'agriculteur et de préserver le salaire du consommateur aussi, de trouver un équilibre de ce côté-là. Et de mon point de vue, travailler sur la souveraineté alimentaire dans le Nord, dans nos pays, peut être aussi moteur de souveraineté alimentaire dans le Sud. Parce que si on se réapproprie notre agriculture ici, si on lutte contre nos multinationales, nos grosses sociétés ici, finalement, c'est les mêmes oppresseurs dans le Sud. Et donc, évidemment, on ne peut pas jouer sur Déhou qui va acheter des terres à Madagascar. C'est tout à fait hors de notre portée. Mais par contre, il y a des firmes belges aussi qui vont accaparer dans le Sud.
Ah oui ?
Certainement.
Bien sûr. On a dénoncé notamment une firme qui était soutenue en Sierra Leone par Bio, qui est une agence financée par l'aide belge au développement. Et donc, c'était évidemment une incohérence totale, puisque sous couvert de soutenir le secteur privé dans les pays du Sud... cette firme s'appelle ADAX, a été soutenue par Bio, donc par de l'argent de l'aide publique au développement, par la législature précédente. Et donc on a dénoncé, du coup, je pense que ces financements sont un peu mis à mal, ou en tout cas mis en péril. Mais c'est quand même dingue qu'il faille nous-mêmes dénoncer ce genre de choses pour qu'on se rende compte qu'il y a une incohérence quelque part. Quoi.
C'est une blague belge, quoi.
Tout à fait. Il n'y a pas qu'en Belgique qu'on voit ça, hein, malheureusement. Ce sont des phénomènes tout à fait massifs, quoi. Là. Et y compris, comme on l'a dit, dans des pays émergents du Sud aussi. On voit des pays comme la Russie, la Chine, la Corée du Sud, etc., qui s'y mettent aussi.
La Chine, ça c'est plutôt connu, ça, le côté, non ?
Disons que ce qu'il faut dire, c'est que dès qu'il y a un problème, on dit que la Chine, c'est le pire de tous. Hein, c'est un peu comme ça qu'on s'excuse de tout ce qu'on fait maintenant dans les pays occidentaux.
Après les communistes, les Chinois. Voilà, quoi.
Donc la critique est un peu facile, mais c'est vrai que... que la Chine fait partie des acteurs, même si quand on regarde les chiffres, c'est beaucoup moins important. Enfin, la part de la Chine est beaucoup moins importante que ce qu'on l'a entendu dans certains journaux. Quoi. Et donc, il faut d'abord commencer à balayer devant sa porte. Autrement, si c'est uniquement pour dire que les Chinois sont des salopards et que nous, on continue à faire la même chose, vu de Chine, ils ont les informations sur le fait de... Hein, quand on critique la Chine qui fait des affaires avec Mugabe au Zimbabwe, tous les nombres de firmes européennes qui font des affaires avec Mugabe depuis des années, la Chine a facile à répondre que c'est l'hôpital qui se moque de l'infirmerie. Quoi.
Et comme tu le disais tout à l'heure, Arnaud, les multinationales ont des panels d'activités très larges. Et donc, ce n'est pas uniquement des sociétés qui sont actives uniquement dans l'agriculture. Donc, toutes nos banques font de l'accaparement le Sud, soit directement, soit en le finançant. Toutes les grosses banques que nous avons aidées en tant que contribuables continuent à faire ça. Donc, on a une action qu'on peut faire pour aider les pays du Sud, c'est aussi se réapproprier notre économie dans le Nord, notre finance, notre économie agricole. Être actif localement. Donc on doit avoir une vision globale, mais on doit agir localement. C'est important.
Ah oui. Penser global, manger local. Et voilà, c'est banque, mais on en a parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Moi,
c'était hier par rapport aux banques qui, en fait, spéculent excessivement sur l'alimentation, en fait. On suppose sur les matières premières, mais oui.
Je suppose que c'est les mêmes banques.
Oui, c'est ça. Donc, c'est assez récent de nouveau. Hein. C'est à la fin des années 90 qu'on a commencé à ce qu'on appelle libéraliser les marchés des matières premières agricoles. Donc, jusque-là, ceux qui avaient accès au marché des matières premières agricoles, c'était uniquement ceux qui voulaient posséder physiquement du maïs, du blé, etc. Et donc, ça, c'est tout à fait positif, je veux dire, ou constructif de pouvoir garantir à l'agriculteur que le prix de son blé dans 6 mois ou dans 1 an sera au prix garanti. C'est justement pour lui une sorte de sécurité pour son investissement à long terme. Mais on a libéralisé ces marchés, donc on a ouvert la porte à des fonds d'investissement, à des banques qui pour eux, appréhende dire, ou aborde ces céréales comme n'importe quel actif financier. Donc c'est des prix qui montent et qui descendent, donc il faut acheter au plus bas et vendre au plus haut, c'est la spéculation habituelle. C'était des marchés très étroits, c'est-à-dire qu'il y avait assez peu d'intervenants, puisque c'était ceux qui voulaient détenir physiquement ce type de céréales ou de matières premières agricoles. Et donc ça a entraîné des mouvements financiers très importants qui ont créé des bulles, c'est-à-dire des hausses de prix importantes. Et puis une fois que les bulles explosent, les prix deviennent trop bas. Et donc ça entraîne des problèmes, soit de prix trop haut pour les consommateurs, soit de prix trop bas pour les paysans qui n'arrivent pas à vivre de leur production.
C'est de plus en plus grave ça aussi. Hein, c'est,
tout à fait, oui.
Eh bien, avant de poursuivre, nous allons passer une petite pause musicale histoire de déjà réfléchir à tout ça.
No secret, you can find it if you look inside. yourself and no one else don't have to be a bumpy ride. We've been searching all our lives and now we know it's there. So magic, please.
Goldfish. Ouais, et là pour l'instant, il y a Skip and Die sur scène.
Voilà, Goldfish qu'on a vu, c'était vendredi.
Oui, que toi t'as vu.
Oui, que moi j'ai vu la fin.
On voit toujours soit le début, soit la fin, mais on voit jamais un concert entier en fait.
Ah, moi j'ai vu le Buena Vista Social Club, l'Orchestra Buena Vista Social Club, avec le petit R après, en entier.
Ah bah c'est bien, voilà.
Ah oui, non, c'était ça ou rien.
Bon, ben, tout ça ne nous rendra pas notaire. Justement, donc, on en est toujours dans ce débat sur Radio Esperanza, le débat sur l'accaparement des terres. Alors, en fait, un pays où une entreprise transnationale accapare une terre, donc fait l'acquisition d'une terre, elle l'achète, elle la loue, ça se passe comment ?
Ben donc, c'est un bail hein, qui peut aller de 25 jusqu'à 99 ans. Hein, donc, c'est plusieurs décennies. Et donc elle en a l'usufruit de facto pendant X temps. Alors comme ce sont des contrats, il peut y avoir toute une série de clauses, notamment fiscales, qui peut être avantageuses aussi. Donc on parle d'accaparement de terre, c'est un peu le terme générique, mais en fait c'est location à long terme quoi, de terre. En fait.
Mais alors du coup ça fait de l'argent qui rentre quand même du coup, dans les caisses de l'État.
Ah, mais c'est évidemment ça l'argument massu. Hein. Donc la Banque mondiale a soutenu le fait que les pays africains devaient un peu légiférer justement tous ces droits de propriété de terre, parce que non seulement c'était une possibilité d'avoir des entrées d'argent et de devises à court terme, mais en plus bah, ça permettait de rendre productives des terres qui n'y étaient pas beaucoup. Bon, quand on gratte de nouveau, on se rend compte que fatalement bah, ces firmes elles essaient d'avoir les bonnes terres et pas les mauvaises, donc elles sont quand même pas bêtes avec l'accès à l'eau comme on le disait tout à l'heure, et que donc finalement c'est pas une si bonne affaire que ça. Mais bon, voilà, c'est toujours un peu la logique de privatiser hein, tout et n'importe quoi, comme on l'a fait en Amérique latine, en Afrique, dans le cas des programmes d'ajustement structurel. Bah, là, on a trouvé les terres.
Rappeler, donc, ce que c'est...
Les programmes d'ajustement structurel, c'était après la crise de la dette du début des années 80, où le FMI, la Banque mondiale, un peu comme on le fait en Grèce, en Portugal ou en Espagne aujourd'hui, on dit bah, il faut saper dans les dépenses publiques pour régler le problème de la dette. Mais puis, disons... coupé dans les dépenses et moins ça a été, donc plus la dette a grossi, donc c'est ce qu'on est en train de constater aussi en Europe, donc c'était pas seulement le fait de la mauvaise gouvernance africaine ou latino-américaine, on en a la preuve par l'absurde aujourd'hui en Europe. Et donc, bah, la logique était la même. Il fallait privatiser un maximum d'entreprises et de services publics pour avoir des rentrées d'argent à court terme pour pouvoir payer sa dette. Mais en plus, comme le privé gère mieux que le public, bah, on gagnait sur les deux tableaux. Et puis, ça a créé en fait des déserts économiques puisque on a créé des monopoles privés au lieu de monopoles publics. Et puis une fois que les monopoles privés s'étaient fait les plus-values à court terme, elles abandonnaient les sites industriels et donc ça a entraîné une désindustrialisation de l'Amérique latine et de l'Afrique avec une chute du revenu par habitant pendant deux décennies.
Et donc après ça, il y a encore l'accaparement des terres et là, c'est aussi ça doit passer quoi.
Tout à fait, oui. Enfin, même si c'est un phénomène assez récent et on voit quand même des réactions et des résistances, y compris dans certains pays en développement. Hein, le dernier en date, c'est le gouvernement argentin qui a fait adopter une loi restreignant justement l'accaparement des terres en Argentine à 15% du territoire. Il y a déjà plus de 10% qui ont été accaparés par des firmes étrangères aujourd'hui. Donc,
c'est déjà
ça
beaucoup
reste...
quand même.
Oui, c'est ça.
Et
ça
en
reste...
Argentine, c'est pour les agrocarburants ou pour...
oui,
ou c'est le soja
aussi ben oui, mais enfin, c'est souvent du soja pour faire des agrocarburants, du soja génétiquement modifié, etc. Donc,
oui, pour nourrir ou pour nourrir le bétail.
Oui, pour nourrir les animaux.
C'est rien de très agroécologique.
Et alors, de par chez nous, en Europe, on disait hors antenne pendant la pause musicale, chez nous aussi ça se passe en fait en Europe.
Oui, mais donc les chiffres que je citais tout à l'heure sont plus ou moins les mêmes, enfin l'ampleur est la même pour tous les pays d'Europe de l'Ouest. Donc nous on est impliqués dans un réseau européen, on parlait de Terre de Liens, l'initiative Terre de Liens qui existe depuis 10 ans en France, qui fait des émules un peu dans chaque pays progressivement. Et dans nos rencontres, on s'est rendu compte qu'en Europe de l'Ouest, la situation est la même partout, c'est-à-dire que les prix explosent, on a une spéculation sur les terres qui rend l'accès aux terres difficile. Et donc on a les mêmes chiffres de disparition du nombre d'agriculteurs, aussi la disparition d'une partie des terres agricoles par l'urbanisation, etc. Par contre, on a un partenaire lituanien qui a montré que là-bas, c'était assez différent. Leur problème, ce n'était pas un problème d'accès aux terres, c'était d'avoir un nombre d'agriculteurs suffisant parce qu'eux, ils ont une dépopulation massive, essentiellement des personnes en âge de travailler, essentiellement des hommes, qui quittent le pays pour aller travailler dans les pays d'Europe de l'Ouest. Et donc, ils sont, en manque d'agriculteurs. Et donc, il y a beaucoup de terrains qui sont laissés en friche. Pour l'instant, leur marché de la terre est relativement protégé jusqu'à l'année prochaine parce que du fait de leur entrée dans l'Union européenne, on leur a imposé de rejoindre la manière de fonctionner générale de l'Europe qui a conduit aux dérives qu'on connaît en Europe de l'Ouest. Et donc, par exemple, en 2014, il y aura une ouverture complète, une libéralisation complète du marché de la terre. Donc pour l'instant, il n'y a que les sociétés lituaniennes qui peuvent acheter des terres en Lituanie. Bon, il y a moyen de contourner ça. Il y a pas mal de sociétés occidentales qui créent une société lituanienne pour acheter les terres. Mais là, ça va vraiment ouvrir la porte. Et notre partenaire lituanien disait qu'il y a énormément de personnes âgées qui possèdent de la terre, qui ne revendent pas leurs terres actuellement parce qu'ils attendent les riches suédois qui vont venir acheter leurs terres à la libéralisation du marché. Donc
oui,
ça leur promet
aussi,
qui attendent. Oui.
Qui attendent là à lécher, non ?
Et donc ça promet une explosion des prix dans leur pays aussi, donc un problème d'accès. D'autant qu'on voit la montée du chômage dans les pays occidentaux et donc on va probablement, si la tendance se poursuit, on pourrait avoir un retour de travailleurs des pays de l'Est vers leur pays et donc se retrouver dans des problématiques fortes. Enfin, il y a une convergence du fait de la création de l'Union européenne. Il y a des convergences positives et ici il y a aussi des convergences négatives qui font que les pays de l'Est vont se retrouver dans la même situation. Et alors je pense par exemple, on a rencontré des partenaires roumains aussi où ils expliquaient qu'il y avait une collusion entre les autorités publiques locales et les entreprises multinationales. Par exemple, dans les mairies, ils passent des annonces officielles d'une entreprise qui dit « j'ai un projet pour le village, je vais développer votre village bon, », plutôt positif. On fait une réunion dans une semaine, etc. Parfois un local prêté par la mairie. Et quand les agriculteurs viennent, il s'agit de racheter leurs terres pour faire un projet d'agro-industrie qui, bien sûr, va développer l'emploi, apporter des devises, etc. Enfin, on connaît le langage classique dans ce genre de situation. Et donc, finalement, les petits propriétaires qui sont souvent plus âgés, donc illettrés, etc., voilà ça comme une action publique soutenue par les autorités publiques. Et donc, ça permet un accaparement des terres aussi, une vente des petits propriétaires à des grosses entreprises. Et évidemment, le retour en arrière est très difficile. Le rapport de force n'est pas le même quand il s'agit de récupérer des terres qui ont été rachetées par des multinationales.
Oui, alors qu'il n'y a même pas eu un appui, par exemple, de la commune ou du service public. C'est juste... C'est un leurre, en fait.
Il ne s'agit pas d'une action publique, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça.
C'est pas la commune qui devient propriétaire, c'est pas elle qui mène le projet. Elle fait un soutien en termes de communication vis-à-vis d'une grosse société. Et quand on parle de multinationales, on ne parle pas nécessairement de multinationales américaines. On parle de sociétés européennes, d'Europe de l'Ouest ou même d'Europe de l'Est qui investissent. Finalement, on lutte tous contre les mêmes personnes. C'est pas... Enfin, je ne pense pas que ce soit nous, petits Belges, qui exploitons les pays du Sud. C'est la plupart du temps les grosses sociétés multinationales, transnationales ou nationales de nos pays qui vont, contre lesquelles on doit nous-mêmes lutter et qui elles-mêmes essayent de mettre en péril la sécurité sociale et de privatiser un maximum de choses. On lutte contre les mêmes personnes. Et donc, il y a une convergence d'intérêts à avoir entre les paysans du Sud et les paysans du Nord. On a des luttes communes à mener.
Alors, est-ce qu'on peut... Donc les terres qui sont achetées, donc là on le voit en Roumanie, donc on essaye de faire vendre donc aux agriculteurs leurs terres. Dans les pays du Sud, c'est la même façon de faire ?
Dans les pays du Sud, en général, on ne demande pas leur avis aux agriculteurs. Hein, donc il n'y a pas de titre de propriété ils existent, mais souvent dans des sociétés traditionnelles, donc avec des règles qui sont en dehors de la légalité stricto sensu de l'état de droit. Donc il y a toujours des échappatoires. Et quand l'Afrique regorge de conflits territoriaux où chacun a son droit de propriété, dans plusieurs pays d'Amérique latine aussi, où celui qui est sur ses terres depuis parfois des décennies, voire des siècles, de génération en génération, il a son titre de droit coutumier. Et puis une firme arrive avec un titre de propriété qu'il a eu du gouvernement central dans la capitale. Et alors, ça à voir qui a raison. Évidemment, c'est celui qui a eu le titre de l'État qui va avoir raison s'il attaque en justice. Donc c'est très compliqué du point de vue du droit, à tel point qu'il y a toute une série d'initiatives de résistance. Par exemple, vous connaissez peut-être le projet Frontières de vie en Équateur, avec une communauté qui c'est soutenu par l'opération Sonsons, mais c'est une association de la région liégeoise qui a soutenu ce projet, qui vient en fait des communautés locales dans la forêt amazonienne où il y a des pressions pour qu'ils abandonnent leurs terres là pour exploiter du pétrole.
Le pétrole qui se trouve
et
encore.
Et ils ont décidé de faire une frontière de vie, donc de faire une réserve naturelle avec toutes des plantes rares et donc faire reconnaître leur territoire par l'UNESCO. Et donc d'avoir toutes des dynamiques juridiques, entre guillemets, pour essayer de contrecarrer les mêmes démarches juridiques qui sont mises en œuvre parallèlement par les firmes transnationales. Donc c'est un phénomène assez massif. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe en Belgique, on peut faire le lien. Nous, on était tellement loin dans nos sociétés modernes où on a vaincu les famines, et tant mieux. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on a eu un modèle tellement industriel productiviste qui reste 2% d'agriculteurs en Belgique, par exemple, et qu'on voit qu'il y a un mouvement inverse qui est en train de se remettre en route, qui sont des alternatives crédibles par des gens qui veulent se relancer dans l'agroécologie, par exemple, et des consommateurs qui veulent consommer des produits sains, locaux, équitables et tout ce qu'on veut, parce qu'ils ne veulent pas être complices malgré eux de ce système qui crée des dégâts environnementaux et sociaux très importants. Dans le Sud, ça existe aussi, évidemment, puisque ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est souvent les cultures traditionnelles qui avec un savoir ancestral. Donc pour eux, c'est l'agroécologie ou agriculture bio, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Donc c'est un peu un label occidental qu'on met sur une réalité qu'ils ont toujours connue. Donc ce qu'il faudrait, c'est plutôt soutenir ces dynamiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé un peu ce concept de super citoyen. C'est pour dire qu'il y a déjà des alternatives qui existent, pas seulement en Belgique, des gens qui se mettent dans des groupes d'achat communs, justement pour garantir des circuits courts, pour qu'on sache ce qu'on mange et sortir de circuits industriels. Ça existe aussi énormément dans les pays du Sud. Vous avez vu Sanabob qui expliquait qu'il y avait des super citoyens partout au Burkina, parce qu'il y avait toute une série de dynamiques agroécologiques qui existaient déjà. Donc on est un peu dans c'est ça qu'on veut mettre en avant aussi. Il y a toutes ces mesures internationales à prendre pour réguler les flux financiers, empêcher la spéculation financière, réguler les choses pour qu'il n'y ait pas les agrocarburants qui concurrencent les cultures vivrières, empêcher les accaparements de terre, mais aussi soutenir toutes ces initiatives qui existent et qui sont donc quelque part le changement en route, même si ce sont des micro-changements. Et bien alors, une solution qu'on propose aussi, qui ne va pas résoudre tous les problèmes d'un coup, mais qui permettra en tout cas de lever le voile et de quelque part participer à ce qu'on appelle dans le monde associatif l'effet de Dracula. Une fois qu'on met les pleins feux sur une réalité, comme on l'expliquait tout à l'heure avec le fait que Bio soutienne une entreprise qui accapare des terres pour des agrocarburants en Sierra Leone, mais c'est le fait que simplement le consommateur puisse au moins savoir si ce qu'il mange est produit dans des conditions décentes, et qu'il n'y a pas d'OGM dedans, et qu'il n'y a pas d'accaparement des terres qui a produit cette alimentation, et tout ce qu'on veut quand on parle de labels pour les cultures qui sont produites dans les colonies en Palestine. C'est la même chose. Si je n'ai pas envie de manger des aliments, même s'ils sont bons, qui ont été produits dans des colonies, je voudrais bien le savoir et avoir les capacités de dire non. Or, pour l'instant, il n'y a aucune traçabilité de ce type-là. Ouais. Et donc, c'est vraiment la première des mesures, au moins, qu'on fasse la transparence pour que même celui qui veut uniquement agir en tant que consommateur, qu'il puisse au moins regarder cette étiquette et se dire, moi, si je ne veux pas d'OGM, si je ne veux pas d'agrocarburant, si je veux que le producteur local, que le paysan soit payé décemment, ben je veux faire ce choix en tant que consommateur. Mais même ça, alors qu'on est soi-disant dans un système de consommation de masse, même ça, on ne peut même plus le faire. Et donc, on va être complice malgré nous de ce système parce qu'on n'a même pas l'information pour dire non. Et donc, c'est vraiment la première chose toute simple. C'est en débat depuis des années au Parlement européen. Et chaque fois, les lobbies arrivent à faire en sorte que non, il y a toujours une bonne raison pour ne pas que ça se fasse. Mais ça serait en tout cas un premier signal. On parlait tout à l'heure, on a sorti une étude sur la spéculation alimentaire en dénonçant les banques belges. Moi, j'ai tous les dirigeants de toutes les banques belges qui m'ont appelé dans les deux jours après.
Évidemment.
À expliquer, chacun a essayé de se justifier.
C'est presque pathétique.
Certains qui, c'est même pas ça, c'est qu'ils s'offusquaient en disant que tout était archi faux. Et puis quand on grattait, en fait, je pense par exemple à Deutsche Bank, je peux les citer, j'ai pas de problème, qui expliquait dans le journal L'Écho que tout ce qu'on disait dans ce rapport était archi faux. Donc en me contactant, quasi m'insultant, je dis écoutez, moi j'ai les documents ici. Si vous me prouvez le contraire, je vais bien faire un communiqué. Et puis finalement, il a fait une courbe rentrante en disant, enfin, tous les produits dont vous parlez existent, mais on ne les recommande pas à nos clients, ils sont juste disponibles pour ceux qui les veulent. On va faire un deuxième communiqué alors, parce que là, ça s'appelle de l'information mensongère. Donc, quand on voit parfois des lignes de défense pareilles, on se dit que le fait que le consommateur citoyen ait l'information, ces gens qui font des saloperies en cachette quelque part seraient tout nus et ne pourraient plus continuer à le faire.
Si on parle au niveau des chiffres, Déborah, tout à l'heure, tu avais sous les yeux quelques chiffres au niveau du nombre d'hectares de terre. Il y avait parfois des informations qui étaient différentes. Alors, on avait pourtant un chiffre qui disait qu'il y avait 200 millions d'hectares de terre accaparés. D'autres chiffres qui disent que non, il y en a 80 millions. Mais tu disais, Arnaud, que ça dépendait un peu des critères. Qu'est-ce qu'on considère comme accaparement des terres? À partir de quelle échelle de territoire est-ce qu'on peut parler?
D'abord, la différence de chiffres, ça provient des différentes études. Parce que faire l'état des lieux des terres accaparées, c'est pas si simple. Parce que, de nouveau, il y en a qui se défendent de dire « Mais non, ça, c'est pas l'accaparement, ça, c'est autre chose, etc. »
Nous, on la loue.
Et donc, la première étude d'envergure avait sorti le chiffre de 80 millions. Et puis finalement, les études additionnelles ont abouti à ce chiffre de 200 millions pour à peu près la moitié pour les agrocarburants, comme je le disais tout à l'heure. Mais disons que dans un premier temps, le premier état des lieux arrivait à une petite centaine de millions d'hectares seulement. Et puis quand je dis les critères, c'est plus de nouveau après, une fois qu'on a identifié une terre accaparée, certains, soit la firme, soit l'État, va dire « mais non, c'est pas vraiment ça ». Et donc, il a fallu, en effet, dans des études ultérieures, avoir des critères, avoir des critères plus objectifs et pouvoir faire le choix sans devoir avoir le blanc-seing de l'accapareur pour dire que c'est une terre accaparée, parce qu'évidemment, c'est pas le plus simple d'avoir comme aveu. Quoi.
Et puis j'imagine que c'est assez opaque aussi, on n'a pas toutes les informations. Exactement. C'est le genre type de contrat
qui... secret défense,
voilà, exactement. C'est... Et donc les 200 millions, c'est ce qui a été mis à jour. Tout Il y a probablement des mouvements assez massifs qui sont encore dans l'ombre. Donc, et c'est en voie d'explosion, on parle de 200 millions, il faudrait citer l'année, parce que c'est...
2011, c'était en avril 2011.
Ça, c'est
les 80 millions. Les 80 millions, c'était en...
Et donc
En avril 2011.
Dans un phénomène qui explose. En fait, on a eu cette crise en 2008 qui aurait pu vraiment poser problème à l'économie capitaliste. Et finalement, on a sauvé les banques d'une certaine manière. On aurait pu le faire d'une autre manière. Ça a permis de préserver, c'est vrai, en partie la population de choix douloureux, disons, mais d'années douloureuses. Mais on reporte le problème, finalement. On garde le malade sous perfusion. Et ça ne fait qu'amplifier, la financiarisation ne fait que s'accroître. Les statistiques montraient que durant le XXe siècle, il y a deux moments où les inégalités étaient les plus fortes. Alors c'est des chiffres sur les États-Unis, mais étaient les deux moments où les inégalités de revenus étaient les plus fortes, c'était juste avant la crise de 1929 et juste avant la crise de 2008. Et les statistiques les plus récentes montrent que depuis 2008, ça s'accélère. Les inégalités continuent à croître. Donc normalement, après la crise de 1929, pas mal de banques ont fait faillite, les inégalités ont commencé à diminuer, surtout avec l'arrivée de Roosevelt au pouvoir. Et ici, on voit qu'il n'y a pas eu ce mouvement-là. On est toujours dans un mouvement de financiarisation qui s'étend. Il n'y a pas eu de coup d'arrêt.
C'est un effet boule de neige, limite.
Oui, ou alors on n'apprend pas de ces
erreurs. C'est guérir le mal par le mal, mais ça fonctionne en médecine parfois. Ouais. Ça ne marche pas bien en économie.
Ça fonctionne parfois avec la gueule de bois.
Et donc, en même temps, il ne faut pas que ce discours un peu catastrophiste nous fasse peur et qu'on doit se dire, on est occupé à repousser. On sait qu'on va avoir mal et on repousse le plus loin possible le moment où ça va faire mal, quitte à ce que ça fasse plus mal. Il y a aussi pas mal d'initiatives, par exemple Terre en Vue, dont je suis représentant, mais beaucoup d'autres aussi, des initiatives positives, et ce que tu citais aussi, des super citoyens. D'initiatives positives qui construisent une économie autre, une économie où on ne fait pas appel au marché, où on reprend la possession en fait sur le marché, puisque la vente directe, ça reste du marché entre consommateurs et producteurs, et donc on reprend possession de notre économie. C'est ça qui est essentiel, c'est parvenir à prendre localement possession de nos outils de production, de tout ce qui est important pour nous, de notre production d'énergie.
Et c'est des systèmes qu'on peut mettre en place dans son entreprise. Au CNCD, on a 55 employés et on a mis en place ce système avec des producteurs locaux où les gens peuvent faire leur course entre guillemets dans l'entreprise et repartir avec des produits qui sont amenés directement par le producteur local. Donc c'est une dynamique qui pourrait prendre de l'ampleur si il y a les groupes d'achat commun, etc. C'est un peu les éclaireurs, mais notamment il y a maintenant des intermédiaires qui permettent de faciliter les choses pour avoir une variété de produits suffisamment large pour pouvoir faire ses achats et consommer des produits sans se retrouver du temps de la lampe à pétrole, mais de respecter, je dirais, le travail décent.
Exactement, il ne s'agit pas de revenir en arrière, il ne s'agit pas de l'agroécologie, ce n'est pas revenir à l'agriculture du Moyen-Âge, c'est quelque chose de novateur, c'est reprendre le contrôle de notre économie. Et il y a pas mal d'initiatives qui naissent, et il y a des mises en réseau aussi, par exemple. Je discutais tout à l'heure avec François du réseau des consommateurs responsables, le RCR, qui essaye à la fois de fédérer, mais aussi de propager ces idées-là. Et on voit que le fait de reprendre la possession de notre vie au quotidien, notre économie, de ce qui nous entoure, de dire on peut être acteur, ça, d'une part, ça a du sens. Il y a beaucoup de gens qui se perdent dans le sens de leur vie parce qu'ils sont dans des boulots qui ne font pas sens pour eux, qui n'ont pas de sens, qui ne leur parlent pas. Ils sont bien obligés de le faire. Mais là, on est dans de la recréation de sens. C'est quelque chose qu'on voit vraiment fortement avec Terre en Vue, dans les groupes locaux. Et puis, c'est aussi beaucoup plus résilient d'un point de vue économique. Ça permet, dans le cas de chocs qui vont arriver, notamment on peut penser au pic pétrolier, mais il y a beaucoup de chocs à venir, c'est un système beaucoup plus résilient qui nous permet, après, pour les personnes qui sont investies dans ces secteurs-là, de mieux supporter la crise et de faire appel à la solidarité commune. Nous pouvons résister à ça, et pas résister dans une idée de combattre les OGM qui sont mauvais, bien sûr, il faut le faire, mais aussi dans l'idée créatrice de dire on construit notre économie, notre vie. On n'a pas besoin de ces multinationales.
Voilà, c'est super, j'aime bien. C'est positif.
Oui,
voilà.
Oui.
T'as vu, on s'est pas énervé.
Non, non, on s'est pas énervé. Pourtant, il y avait de quoi. Donc voilà.
Eh bien, on touche tout de suite, presque.
On n'est pas loin de la fin de cette émission. Juste après, on retrouvera l'émission Hors des âges avec les enfants.
Avec Sol et Iñaki.
Sol et Iñaki, vos enfants, finalement. Et,
pourquoi tu me vouvoies ?
Mais non, vos, toi et, ah. et Jean-Marc.
Et moi j'en ai un, mais pas avec Jean-Marc. En fait. On va pas recommencer comme ce matin cette histoire. Hein. Bon, bref, on s'en fout de ma vie privée, non d'un pétard. Voilà, donc dernier débat aujourd'hui sur le droit à l'alimentation. Merci Arnaud, merci François, et merci à Pascal à la technique et Clarita pour avoir co-animé et préparé avec moi cette émission.
De rien, merci à toi.
It was said that the herb he provided for I and I, I and I, they don't want you to know marijuana. I eat soap and be free, just so let it be. They don't want you to know marijuana. I eat soap and be free, just so let it be. Herb smoke, keep eye sane, take my pain, stop my grain, so much I gain, so I blame. Eye sane, jam mic, bring the right strain to my brain, feature up lightning like I Wayne. Come and they up on the lava ground, and if them soft like a guava, them can't come round this part of town. Telling you the tart alone, I put a sparta, it falter down. Revival, hallelujah, it start up now, reprisal, for the loja, it water down, I pardon no. But they in a me garden strong. This is not a marijuana song. Cause they don't want you to know marijuana. I eat soap and be free, just so let it be. They don't want you to know marijuana. I eat soap and be free, just so let it be. Not marijuana music, just a message from the ones that use it. Don't abuse it. Has a mind that fertile, bring forth something that worthwhile. Know your worth, child. Cause no officer alive could a look in my eyes and see what I prophesize. My mind it forever occupies. Thoughts of all my talk as spice amongst us. In trouble for my trouble, day. Then my chalice I go bubbly. Drop in a one load then double it. How are they in a me garden strong? This is not a marijuana song. Cause they don't want you to know marijuana. I eat soap and be free, just so let it be. They don't want you to know marijuana. I eat soap and be free, just so let it be. So me say, listen up, the truth is to be told. Open your eyes, there's beauty to behold. What is the new if you consider the old? Why gain the world and not consider your soul? What is the cloud if you understand the lining? Who is the king if you consider the lineage? You know it's him, so not continue deny him. Is it freestyle if I consider the line? Then configure the timing or just to fit the rhyme scheme. With no trouble to my mind, really, silly. But the inner me garden strong. This is not a marijuana song. Cause they don't want you to know marijuana. I eat soap and be free, just so let it be. They don't want you to know marijuana. Youths, I eat soap and be free, just so let it be. Cause they don't want you to know marijuana. I eat soap and be free, just so let it be. They don't want you to know marijuana. I eat soap and be free, just so let it be.
And I let them know that the herb is a lifeline. No, they would never want you to know. And they would never want you to know. So be free. And they would never want you to know. Never want you to know.
No, 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 no.
Never want you to know.